Alors que l'été pointe le bout de son nez, on prépare nos vacances. Les possibilités sont plus grandes que l'année dernière, même bien plus que du temps de nos parents. Pourtant, il est bien possible que vous restiez chez vous, ne serait-ce que pour écouter CMA. Mais il y a les podcasts, vous savez. Enfin, en tout cas, le nouvel épisode, c'est maintenant. Voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, on a de la suite dans les idées et on défile avec une bouteille à la main. Voici le sommaire. Elle nous fera découvrir en chanson les expressions françaises les plus originales. Une chose est sûre, ce ne sera pas chanté comme une casserole. Bonsoir Sonia.
On ne sait pas. Bonsoir.
Il est festif et revendicatif. Je ne parle pas du chroniqueur, mais de sa chronique, quoique. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
On parle de quoi ce soir?
Alors ce soir, on va parler de la Gay Pride qui a eu Angers il y a quelques semaines, l'événement homo de l'année.
D'accord. Et donc les origines de tout ça alors?
Oui, vous allez voir que c'est toute une histoire. Rien que le nom déjà, on en parle tout à l'heure.
Ok. Quand on aime un film, on rêve d'en avoir la suite. Mais est-ce toujours une bonne chose? Tu vas nous le dire ça, Olivier. Bonsoir.
Oui, vous saurez tout.
Okay. Sur le zizi. Oui. Excusez-moi, pas osé. Ça m'a démangé.
C'est quoi cette suite de films? Je ne connais pas ce film. On voit des films bizarres du côté de Soso.
Le retour.
D'accord. Et enfin, celui qui a pris de la bouteille depuis 10 ans qu'il chronique sur différentes radios. Bonsoir Florian, de quoi nous parles-tu?
Eh bien ce soir, je vous parle d'un objet qui peut aussi bien servir à faire du sport, de la musique, pour se nourrir, pour décorer, pour plein de choses en fait.
Ok.
Vous découvrez ça tout à l'heure.
Faut qu'on devine. Bon, on verra tout à l'heure. Alors merci. Tous ces sujets, plus des Graals, plus des surprises. Bah bienvenue dans CMA. Une fois n'est pas coutume, on commence par jouer ensemble à découvrir les expressions et leurs origines.
Oui,
voici Sonia et son so-so show.
C'est chaud. C'est chaud. C'est le so-so show.
Chaud, cacao.
Tout, tout, tout,
tout,
vous
non.
Saurez
chaud,
chocolat. Eh bien non, ce soir, pas tout sur le zizi, mais ce soir, on va parler effectivement des expressions bien de chez nous, et pour cela, eh bien, je vous propose un petit jeu, et donc vous allez devoir retrouver à l'aide d'indices musicaux des expressions françaises, bien de chez nous, comme on dit, et ensuite nous essaierons de les décrypter et découvrir leurs origines ensemble. Alors on y va pour les premiers extraits.
Le so-so show.
Roulez, roulez, roulez.
Donc je roule, 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 roule. Je roule, 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 roule.
Farine de froment, farine de blé noir. Farine de froment, farine de blé noir.
Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, oui. Allez, roule-moi, roule-moi la pâte.
C'est bon, tu m'as trompé.
Le so-so show.
D'accord.
J'ai pas entendu la dernière.
C'est Weshden. Ouais. Tu m'as trompé. Alors, Sonia qui passe du Weshden, moi je dis.
Ouais.
Alors là, on arrive Weshdené, vraiment.
Weshdené, moi je l'appelais.
Moi j'ai une expression, mais je sais pas
si. Ah bah si, il y a tout. Il y a tous les mots. Hein.
Ah bah il y a tous les mots, mais est-ce que ça correspond avec la dernière truc? Je sais pas.
Ah vas-y, tu proposes quoi?
Non, mais Olivier, il avait sur le bout de la langue.
Ah bah lancez-vous.
Ah
hein.
Non, mais c'était rouler, rouler une pelle, non, c'est pas ça.
Alors, c'est une expression.
Bah,
ça,
on va voir, je sais pas, on va voir après la réponse. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes?
Rouler quelqu'un dans la farine.
D'accord. Et toi, Mathias,
rouler sous les aisselles.
Rouler sous les aisselles. Bon. Les chou-bichou.
Bon, on écoute.
Alors,
quelque chose.
On écoute la réponse.
J'aurais dû me méfier. Je me suis fait rouler dans la farine.
Allez, bravo, Florian. Effectivement, c'était non pas rouler une pelle, mais bien se faire rouler dans la farine. Qui signifie se faire duper, être trompé, se faire berner.
Ah, d'où Weshden.
Weshdené, tu m'as trompé.
Weshdené.
C'est tout
Weshden. Alors, pardon. Les origines de cette expression, on les retrouve. Ça date du 19e siècle. Elle serait l'association de rouler au sens de tromper. Hein, je me suis fait rouler.
Ouais.
Et d'emploi varié du mot farine. Où ce terme désignait des arguments trompeurs. Alors, il y a aussi une autre...
J'ai pas compris. Farine?
Farine, le terme qui désigne des arguments trompeurs.
Ah bon, je savais pas. Donc, ouais. Farine.
Mais là où ça me parle plus, et je pense que ce sera... C'est ça à retenir, je pense, c'est l'interprétation qui vaut que la farine, avant, elle servait à l'époque, les comédiens s'enduisaient le visage de farine.
Ah, c'est un maquillage.
Pour se maquiller. D'accord. Et donc, ça leur permettait donc de se déguiser, ce qui empêchait aussi qu'ils soient reconnus.
D'accord.
Et donc, d'où l'expression un peu tromper les spectateurs, mais dans le sens, voilà, le
maquillage et
se grimer, voilà. Okay. Donc, le temps d'une représentation et donc d'où se faire rouler dans la farine. Je me demandais d'où ça venait cette histoire de farine.
Et bah voilà, maintenant on le sait.
Ça coûte cher maintenant de se faire rouler dans la farine.
Ah oui, c'est vrai.
Maintenant, ça coûte cher.
Tout à fait. Deuxième Soso Show.
On y va.
Le Soso Show.
Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean.
Elle avait des seins quelque peu comme ses seins, soit dos du fait.
Comme il est sain, sain.
J'attendrai pas le sein glinglin.
So show.
Bon, il y a des seins. Alors ça, il y a des seins, il y en a partout.
Ça, alors, c'est tout ce que j'ai compris. Mais
Alors, il y en a beaucoup de seins. On ne sait même plus...
Passion avec les seins.
Alors, avec les seins. À quel sens se vouer.
Ah, oui.
Ah
Ne pas.
À quel sens se vouer. Ouais,
d'accord.
Je ne sais pas.
Bon.
On essaye de voir la réponse.
On essaye la réponse.
Intitulé « À quel sens se vouer ?»
Ah oui.
Bravo Mathias. Effectivement, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, alors comment je vais faire deviner ne pas savoir à quel saint se vouer. Je me suis dit, on va faire dans la chanson
plein
tout ce
saints.
Qui fait saint.
D'accord.
Saint, saint, saint. Effectivement, ils vont être perdus. Ils ne vont plus savoir à quel saint se vouer. Eh bien, voilà. Donc, la signification de cette expression, c'est être dans un extrême embarras, être perdu, avoir épuisé toutes ses ressources. Enfin, voilà, plus savoir vraiment... Où aller, vers qui aller.
Qu'il faut prier pour pouvoir avoir...
Voilà, d'accord. C'est ça. Alors, au Moyen-Âge, la dévotion aux saints fait partie intégrante de la vie quotidienne, vénération des tombeaux, des reliques, etc. Donc, chaque ville, chaque paroisse, chaque confrérie a son saint ou sa sainte. Effectivement, on ne les oublie pas, nos saintes. C'est vrai que je n'ai pas fait de chanson sur les saintes, mais bon. Et on se sent proche d'eux, on les sollicite en période de crise comme pour les petits aléas de la vie. Si chacun a sa spécialité, il arrive aussi fréquemment que l'on puisse en invoquer plusieurs pour la même requête. Alors, je ne sais pas si je vous dis Sainte-Anne, est-ce que vous savez pourquoi ? Alors, Sainte-Anne ou même Saint-Gabriel, lorsqu'on désire un enfant. Donc, semble-t-il, on peut les...
Il faut leur demander.
On implore Saint-Gabriel.
Voilà, Saint-Grégoire le Grand, Saint-Côme ou Saint-Damien.
C'est
là, c'est très important, c'est quand on a mal à l'estomac, les amis.
Ah, d'accord. Bon.
Saint-Trita ou Saint-Jude. Quand il y a une cause désespérée, on fait appel
à
eux.
Ah,
oui. Enfin, toujours est-il que le choix n'est pas toujours évident. Et c'est au début donc du XVIe siècle qu'apparaît donc cette expression « ne pas savoir à quel saint se vouer » pour signifier « ne pas savoir à qui s'adresser » parce qu'effectivement, en fonction d'eux... Eh bien voilà, donc ça a également pris le sens d'être déboussolé ou de ne plus savoir comment se tirer d'affaire.
Ok, très bien. Allez, troisième Soso Show.
Le Soso Show.
Tous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Et dou-wa-di-di-dou-wa-di-dam-di-di-dou.
Toute la vie, nous serons toujours des amis.
Et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord.
C'était mon copain.
Ça n'a pas compris.
C'était mon ami.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon. C'est chaud.
Oui, d'accord.
C'est compliqué.
Très compliqué.
Bon, alors, est-ce que on avait un petit doute...
Est-ce qu'il faut faire avec un accent particulier ou pas?
Avoir
un ami cochon.
C'est ça?
Non, c'est pas ça.
Être copain comme cochon.
Ah, c'est ça.
Être copain comme cochon.
On écoute.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est copain?
Comment ça, copain? Foutez-moi!
Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon.
Alors, copain comme cochon, cette expression du registre familier signifie être ami, être très lié, être grande amitié, en tout cas. Alors, jamais on ne vit une paire de cochons s'en aller bras dessus, bras dessous. Vous êtes d'accord avec moi, liés par des liens d'amitié à la vie et à la mort. Mmh. Alors, pourquoi cet animal a-t-il donné lieu à cette expression un peu péjorative voilà, tout simplement, eh bien, parce qu'il n'a, il n'a rien à voir là-dedans. Le cochon, eh bien, en fait, c'est une déformation. Hein. Ce n'était pas le mot cochon initialement, mais le mot, alors, sausson.
Ah bon ? Copain comme sausson ?
S-O-C-C-D-O-N, qui s'est transformé ensuite en chauchon.
Et c'est quoi un sausson?
Et qui voulait dire, ce mot-là, sausson, ça voulait dire camarade. Ah, oui, ben, non, c'est pas un sausson. C'est pas un sausson non plus. Hein. C'est le mot qui veut dire camarade. Et donc, à l'origine, au XVIe siècle, on disait camarade comme cochon. Avant que les camarades ne soient remplacés par amis à la fin du XVIIIe siècle, par copains.
Ah, c'est d'accord.
Voilà un petit peu l'histoire.
Eh bien.
C'était Sausson.
C'était Sausson. Très bien. Bah, merci Sonia. Merci Soso. Chaud. Allez, on va continuer. Avant de sortir de nos drapeaux arc-en-ciel, on va répondre à une question posée par une auditrice. Et justement, on est dans le thème, puisque Lou nous demande pourquoi on appelle lesbienne une fille qui aime les filles. Ben voici la réponse du Graal.
Question de Lou d'Instagram. Pourquoi dit-on des filles qui aiment les filles? Quelles sont lesbiennes?
Bonne question, Lou. Pour te répondre, on va voyager. Déjà, sais-tu, Lou, qu'il y a des lesbiens. Comme les lesbiennes, ils habitent l'île de Lesbos, en Grèce, tout comme les angevins qui habitent Angers. Mais tous les habitants d'Angers ne sont pas des anges, et tous les habitants de Lesbos ne sont pas homo. Alors pourquoi appelle-t-on lesbienne une fille qui aime les filles? Eh bien tout ça, c'est la faute de Sappho, pas la chanteuse, hein. C'était une habitante de l'île de Lesbos. Son kiff à elle, il y a 2700 ans, c'était d'écrire des poèmes sur l'amour entre femmes. Même si on ne sait toujours pas si Sappho aimait physiquement les femmes, le fait est que, depuis ce temps, lesbienne est synonyme d'homosexualité féminine, tout comme le saphisme, qui vient aussi de Sappho, un mot masculin pour un amour féminin. Et bien voilà, c'était le Graal et vous pouvez poser vos questions sur le site radio-g.fr, rubrique contact. Vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Le Graal nous parlait à l'instant de lesbienne, il y a un instant c'est le L de LGBT. Et bien en cette saison de Pride, on va revenir sur juste en origine. Voici la chronique de Mathias.
On est tous un peu homo.
Qu'est-ce que c'est?
On est tous un peu homo.
Bon, bah écoutez, voilà, c'est un jingle. Hein.
J'adore ce jingle.
Ah d'accord. Okay.
Oui, je pense que je vais la mettre en sonnerie de téléphone.
Ok.
Alors du coup, oui, on va parler de la marche des fiertés ou de la Pride. Vous avez remarqué, j'ai pas dit la Gay Pride. Hein.
Parce que on dit pas la Gay Pride.
Alors, le temps est à l'inclusif, et dans le combat mis en avant par cette manifestation, il y a bien plus que des hommes et des femmes qui aiment les personnes du même sexe. L'anacronyme consacré est bien plus inclusif, puisqu'on ne parle qu'on parle de LGBTQI+.
Ah oui, le blablabla.
Oui, okay. Oui, ça devient un peu...
Il y en a beaucoup de lettres.
Il y a beaucoup de lettres. Mais revenons à l'origine de cette manifestation pour mieux comprendre son but. Je vous emmène aux États-Unis, à New York, et plus précisément dans un bar homo, le Stanhall. Nous sommes le 27 juin 1969. La police décide de faire une descente pour le moins musclée dans ce bar aux mœurs tout juste tolérées. Les clients se rebellent et la situation dégénère. S'ensuivent des manifestations plutôt violentes pendant plusieurs jours.
Ah, quand même.
Ouais.
Ah oui, donc
ouais.
Ça m'est passé quand même. Oui,
c'était pas très... Voilà. C'est cet événement qui marque une étape importante dans la lutte pour l'égalité des droits des homosexuels, et même de toutes les personnes queer. C'est-à-dire hors normes suivant la moralité de l'époque.
Ah oui, les queers, c'est tout ça. On met tous ceux qui ne sont pas en marge de la société, ça fait beaucoup de personnes quand même.
Bah, tout le monde, en fait.
On est tous un peu queer,
ça,
ouais. Pas queer, hein. Non, pas queer.
Queer, moustache. Ah ouais. Et c'est le samedi 27 juin 1970 que la première Pride au monde se déroule à Chicago, suivie par San Francisco, New York et Los Angeles.
D'accord, ah oui, ça fait des petits, alors il y en a eu
ouais,
un petit peu
ça
partout.
Ça s'est suivi, je pense qu'il y a vraiment une grosse colère à ce moment-là qui s'est...
Qui s'est réveillé.
Qui s'est réveillé.
Bah oui, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, ouais. Donc il y a quand même des infos qui ont dû passer.
C'est assez fou.
Ouais.
En Europe, la première marche se déroule le 29 avril 1972, elle réunit...
72.
Elle réunit 200 personnes à Münster en Allemagne. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce.
D'accord. Ah, c'est l'Allemagne qui a commencé alors. C'est vrai qu'ils sont, relativement en avance.
Ils sont bien, ces petits Allemands. La Russie, pourtant l'un des premiers pays d'Europe de l'Est à dépénaliser l'homosexualité en 1993, n'a jamais connu de marche des fiertés officielle.
Ah, jamais.
Jamais, oui. Ça risque pas de s'arranger. Hein.
J'ai trouvé l'information intéressante, vu le climat actuel, je me suis dit...
C'est clair. Et pourtant, c'était les premiers, alors.
Et c'était les premiers, comme quoi.
C'est bien changé.
En France, les queers participaient déjà depuis 1971 au défilé des syndicats le 1er mai. Comme quoi, il y a toujours eu un petit truc.
Ah, au 1er mai, il y a déjà...
On a toujours eu des petits rapports ensemble.
D'accord.
Enfin, bref.
Je vais vous en parler, mais tu as des rapports avec les syndicats.
Avec les syndicats, je sais pas. Bah, c'était la défense des droits, de toute façon, que ce soit les droits des salariés.
Les drapeaux, tout ça, chaque fois que je les vois, je me dis tiens. Enfin bon.
C'est quoi ces signes? Ça veut dire quoi ça? C'est quelque chose.
Mais ce n'était pas une manifestation spécifique à la cause gay et lesbienne.
D'accord.
C'était pas forcément quelque chose de... voilà. La première vraie marche parisienne a lieu en 1977.
Ok.
Et en 1981, ce sont 10 000 personnes qui défilent, boostées par le passage de la gauche au pouvoir.
Ah bah oui, voilà, ça a ouvert des portes, effectivement. Les gens se voyaient plus libres. Hein.
Aujourd'hui, la marche des fiertés en France se structure aujourd'hui de l'Inter-LGBT, organisatrice de la marche de Paris depuis 2001. L'affluence augmente tout au long des années de 1990 à 2000, au point d'atteindre plusieurs centaines de milliers de participants dans les années 2010.
Ah oui, ça fait quand même du monde, hein.
Ouais, ça fait beaucoup. Cette affluence va de pair avec une multiplication des marches dans d'autres villes de métropole ou des dom-tom. À Angers, c'était le 14 mai, à la Saint-Mathias.
Ah.
Et elle a rassemblé plus de 3000 personnes. Et à Paris, ce serait le 25.
Pour Angers, c'est pas mal.
Oui. Puis à la Saint-Mathias, moi, j'ai trouvé pour ma fête. C'était quand
ouais, c'est
super
bien.
Cool.
D'organiser une pride pour ta fête, c'est bien.
Si ça pouvait être comme ça tous les ans, je valide.
Bon, écoute, j'ai une petite question parce que moi, il y a un truc que je comprends pas trop. C'est tout le sigle LGBTQI, machin, etc. Les premières lettres, je pense savoir. Mais après, je suis un peu perdu.
Bah, comme tout le monde, hein. Je pense que...
Alors, L, c'est lesbien,
gay,
B, LGB, c'est le bisexuel,
T, trans,
T, c'est transgenre,
transidentité,
transidentité, I,
intersexe,
ah, le Q, bah, queer, queer,
queer,
queer, ok. Donc, I, intersexe, alors qu'est-ce qu'il y a après?
Il n'y a pas le A,
alors, il y a le I, intersexe, 2, alors, il y a un 2, apparemment.
Ah, c'est 2 A.
2 S.
2 S.
Bispirituel, qui revendique 4 genres, alors...
Ah, ouais. Oui, oui, d'accord.
Vous m'avez perdu, là.
C'est les Amérindiens qui font ça. Oui, oui, il y a des femmes masculines, des hommes féminines.
Genre Amérindien.
Ouais, c'est un peu spé. Mais ça fait partie du cycle, d'accord.
Il y a le A pour androgyne, hommes et femmes compris.
Voilà. D'accord.
Asexuels, qui n'ont aucune envie de sexe. Et le plus, bah, pour les autres, histoire de... Bah,
quoi, ah oui, il y a encore un petit plus. Donc il y a encore un peu de place pour derrière, quoi.
Il y a le Stonewall, là, à New York. Il faut savoir que ce n'était pas des homosexuels. C'était des homosexuels. Mais c'était avant tout des afro-américains gays. C'était des trans, personnes trans. C'était vraiment des gens, mais...
Des voilà. Queers, quoi. Vraiment ouais, le
queer, queer à fond, quoi.
Ouais, différent.
Et actuellement, voilà, on se dit, bah, pourquoi les trans se rajoutent à la Pride? C'est des discours qu'on entend à droite à gauche. Ceux qui nous ont défendus en premier, c'est les personnes trans, quoi. Et les homosexuels.
À l'époque, il y en avait déjà.
Ouais, il y en avait déjà.
D'accord.
Donc, ouais, on a l'impression que c'est un sujet
quelque chose de nouveau,
nouveau
ouais.
Mais alors qu'en fait, pas du tout.
Ok, merci Mathias. On parlait de manifestation, je vous propose justement une des musiques qu'on retrouve souvent dans les défilés. C'est « I Will Survive ». Ça vous dit quelque chose?
Non.
Oh, si, quand même. Et on peut se demander si c'était mieux avant ou après, tellement il y a eu de reprises. Alors, l'original date de 1978, effectivement, Gloria Gaynor. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Ah, Mathias qui bouge,
là. C'est
là
qu'on chante comme des casseroles.
Moi, je chante pas, parce que
disco, hein.
Et ça, c'était 98 aussi.
Alors effectivement, ça a été repris en 98, mais là, c'était 78. Ça a été repris. Alors, la reprise, il y a de tout. Il y a au cinéma. Alors, par exemple, on l'a dans le film The Hungry Birds. Déjà, je savais pas que le film Hungry Birds existait.
Un dessin
animé, un film tiré du célèbre jeu vidéo.
Ici, oui.
Ouais. Mmh. Et ben, justement, il y a également ça. Alors, par contre, c'est chanté par Demi Lovato. Non, on n'a pas les chiffres. Alors cette version, donc, c'était Demi Lovato, mais on entend aussi la chanson dans Priscilla Folle du désert.
Ah oui.
Dans Souviens-toi l'été dernier.
Je m'en souviens pas.
Ouais. Et même dans Seul sur Mars. Elle a été loin quand même, cette chanson, hein. Voilà. En série télé, on a Lucifer qui, dans la saison 3, eh bien, reprend aussi le titre. C'est vrai que dans la série Lucifer, des fois, il y avait tellement rien à dire qu'il y avait des chansons entières, hein, quand même. Hein, voilà, donc
oui,
ça, c'est pas...
Bon.
Non, mais elle est bien, mais enfin, il y a certains titres, des fois, pour faire l'heure, c'est compliqué. Alors, si on se promène sur YouTube, une des reprises qui est le plus de vues est celle de Fun Cover et Mario José, et ça donne ça. C'est funk, hein. Attention, hors de bon tempo.
Hey.
que je vais parler de
version française.
On verra tout à l'heure. Ah. Il y a la version également de Quake qui cartonne, évidemment, on la connaissait peut-être. Ça c'est pour Quake. Alors on a aussi Robbie Williams qui s'y est frotté.
Ah, oui, bah, oui.
Mais en France, ah, on a aussi la reprise traduite en Je survivrai par deux chanteuses.
Ah, j'en connais Régine,
au moins une. Alors vous en connaissez au moins une. La première, c'est en 1979. La donc la première, c'est.
C'est Régine.
C'est ouais, notre regrettée Régine.
Régine, si tu nous entends.
Ouais, c'était bien nul quand même, Régine. T'aurais
oh
pu
non,
éviter. Non,
cool.
Bah, par rapport à la version originale.
Ce soir,
mais non, mais par rapport à la version d'avant. En français, c'est pas top.
Sans c'est culte.
Ah, ben bah, on a pire, on a pire. Culture, elle l'a dit tout à l'heure, Soso.
Allez, c'est
la route. C'est nul.
Et est-ce que dans les deux versions françaises, ils les ont traduites pareil?
Oui, oui, c'est les mêmes.
Texte,
oui, c'est le même texte. Ouais, 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 c'est exactement le même texte, effectivement. Bon, alors, si on avait une à écouter, ce serait laquelle? L'original, bon, funk oui, cover,
l'original,
Quake,
elle est indémodable.
Régine ou la Rousseau? Ah, bah, moi, j'aimais bien la funk cover, mais après, l'original.
On va prendre l'original, si, l'original, c'est quand même mieux.
L'original, ouais, Gloria Gaynor, alors
Gaynor.
Bon, mais voici que Gloria Gaynor avec I Will Survive.
One second.
C'était I Will Survive de Gloria Gaynor et vous avez donc préféré la version originale, donc c'était mieux avant. Ok. Allez, vous êtes toujours dans CMA sur... Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose ?
Ah, d'ailleurs, en parlant de chansons et de c'était mieux après.
Oui.
Il n'y a pas une nouvelle chanson qui vient de sortir ?
De Calogero.
Avec ce même nom.
Oui, tout à fait. De c'était mieux
écouté,
après.
C'est sûr.
Oui, il nous a... Ouais, je pense. Oui, oui, ouais. Bah, tout à fait.
On peut rien dire, on est en procès.
Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. Combien d'amour raté par heure, combien d'instants loupés par peur, parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, on s'empêche d'avancer. Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude. De tout le projet, des regrets. Le doute est une contrefaçon qui déguise les possibles en non, et tous les plus tard en jamais. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer, la passion va casser. Et finalement tu t'es lancé, sous l'habitude l'a embrassé, et c'était mieux après. Demain est un joli pays, à chaque minute tu le franchis, et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie qui fait d'hier un aujourd'hui. Elle met ta vie en marche arrière, et on se noie dans des verres d'eau, à trop tourner autour du pont. C'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après.
Laissons la justice.
Mais ça nous fera notre justice, générique de l'année prochaine, c'est bien, ça va changer de yodel. Vous êtes donc toujours dans CMA, sur Radio G ou même sur Spotify. Vous pouvez vous abonner au podcast gratuitement. Dans la suite de l'émission, on vous donnera la consigne pour vos bouteilles. Mais avant, en parlant de suite, il y en a dans les idées, puisqu'ils imaginent celles de nos films à succès. Voici la rubrique ciné d'Olivier.
Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno.
Ah, bah, fallait bien la placer celle-ci, hein. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas faite. Hein.
C'est tiré de la famille Madrigal, je crois, c'est ça ?
C'est le dernier Disney.
Ouais. Alors, ce n'est un secret pour personne, 9 fois sur 10, les suites de films sont des navets. Mm. Et pas qu'un peu. Oui. La suite, effectivement, n'a qu'une seule raison, c'est d'être, sa raison d'être, c'est de capitaliser un max sur un précédent succès, en reprenant une formule précédente. Alors, il y a eu des dômes, hein, c'est clair. Qui se rappelle de Basic Instinct 2, non. Toujours avec Sharon Stone.
Je ne savais pas qu'il y en avait un 2 déjà.
Bon, c'est pareil, Christophe Lambert s'était un peu fourvoyé dans Highlander 2, le retour. C'était
il y en a plus, il y en a eu 2 ou plus
Highlander. Ah, je crois qu'il y en a eu 3.
Ouais, ouais, il y en a eu d'autres après. Hein, ils n'étaient pas rentrés.
La grosse daube, je me rappelle toujours ma immense déception quand on est allé voir Les Visiteurs 2.
Ah là là, ouais.
C'était
ouais.
Vraiment, autant le premier était très drôle. Bon. Le 2 était calamiteux, quoi. Non
bah, ils avaient changé aussi.
Ils avaient changé.
Ils avaient changé.
Ah non, non, le Merci, c'est le 3.
Non,
le 2, elle est encore dans le 2.
Ah bon. Ah non, non, c'est le 2 où c'est Muriel Robin qui prend
Robin
la suite.
Ah, le 2.
Et le 3 alors
ah, bah, le 3, on n'en parle même pas.
Le 3, c'est ils sont extraterrestres ou à New York ou je sais pas.
Ils sont à New York, ils sont en Amérique, ils sont
ah oui, bah oui, donc quand tu changes des acteurs, c'est sûr, ça fait bizarre.
Et j'ai même, alors je savais pas, j'ai découvert qu'il y avait eu un. Il y a en 2020-10, ils ont refait un. Ça s'appelle un Titanic Odyssey.
Titanic 2 bah, il est coulé. Hein,
non, 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 non.
Comment tu veux faire Titanic 2?
Le pitch, c'est incroyable.
J'adore.
Ça se passe en avril 2012, donc 100 ans après le naufrage, ils ont reconstitué un bateau et voilà, il y a une nouvelle traversée. Et puis il y a un tsunami qui va venir.
Ah, c'est pas de peau ça.
Chavirer le bateau. Et alors, regardez la note sur Allociné, quand même 0,9.
Ah, ah oui, excellent.
Ils
sont allés jusqu'à mettre Titanic 2 quand même sur l'affiche. Quoi. Donc,
ah oui, Titanic 2, ouais. D'accord. C'était pas avec Leonardo?
Hein?
Non, c'était pas les mêmes acteurs.
Non,
bah
non,
bah c'est ça.
Mais c'était
ça.
Toujours James Cameron qui s'est relancé là-dedans.
Ah non, 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 non.
Ah oui, d'accord.
Non, non, c'est une série Z de base. Et Soso, ils ont même sorti
oui,
un Dirty Dancing 2.
Ouais. Oh. C'était
Havana
un
Night.
Latino, salsa, etc. Ouais.
Ouais, ouais.
Et alors, c'est comment?
C'est pas top.
J'avais pas particulièrement aimé, mais par contre, j'ai entendu aujourd'hui à la radio qu'en 2023 ou 2024, il y aura une suite ou je sais pas quoi avec Jennifer Grey.
Ils vont faire une vraie
Grey.
Suite avec Jennifer Grey qui va empiler et qui va se tourner exactement au même endroit dans les Catskills. C'est une région côté de New York.
Ah, peut-être danser moins bien quand même, non ? Ça fait longtemps.
Ça va revenir sur un couple pareil qui se fait dans le camp de vacances,
d'accord.
Mais avec Jennifer Grey. Et ça se passe dans les années 90.
Ah.
Donc, elle participera. Elle est même productrice du film, donc ça devrait être pas mal. Ça va sortir, je pense, 2024.
Soso, t'es
figurante. Il y aura peut-être un hologramme Patrick Swayze.
T'es pas figurante, Soso ?
Ben, j'ai pas le droit de le dire.
Ah, d'accord.
j'ai signé un contrat.
Ouais, je comprends bien.
Alors, heureusement, il y a quand même des exceptions qui existent et il arrive même qu'une suite dépasse en qualité l'original. Alors, je suis allé voir sur Internet, là, et j'ai trouvé les meilleures suites de tous les temps. Alors, le film qui revient tout le temps, c'est un film de 1974. C'est Le Parrain 2.
Ah,
ah oui.
Avec,
Le Parrain de qui?
Voilà, on entend la musique de Nino Rota, donc avec Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando.
Lui aussi, c'était le 2, tu vois.
Donc, il a eu 6 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Robert De Niro. C'est le seul film. Voilà. Le Parrain a eu un Oscar, meilleur film, et Le Parrain 2 a eu aussi l'Oscar de meilleur film.
D'accord.
C'est vraiment la seule.
C'est l'exception qui confirme.
Les seuls films voilà, où il y a une suite, où les deux ont eu l'Oscar. Quoi.
D'accord. Et il ne s'est pas appelé Le Parrain 2, du coup?
Non. Après, il y avait Le Parrain 3, mais bon, il était beaucoup moins bien. Donc, meilleure suite de l'histoire du cinéma et meilleur film aussi de l'histoire du cinéma. Un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Également, alors je remonte le temps. J'avance dans le temps, 1980. Donc, The Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque.
Ah oui, c'est vrai, le deuxième Star Wars, ouais.
Le premier épisode, autant, était un amuse-bouche. Le deuxième, par contre, lui, il est épique. Des décors incroyables. Ouais. On va sur plein de planètes. Il y a un nouveau personnage qui arrive, qui est le petit gnome, Yoda.
Yoda.
Voilà, c'est un personnage culte de la voilà de Star Wars.
Il était pas dans le 1.
Non, non.
Non, il était pas dans le 1. Il y a la love story qui démarre entre Han Solo et Leia. Mm. Et puis surtout, il y a le twist mémorable, je suis ton père.
Non, bah voilà, tu me spoil. Hein.
J'étais pas au courant, moi.
Une scène culte, enfin ouais. Voilà, une réplique culte.
Ah, c'est dans le 2 qu'il y a
c'est
ça.
C'est dans le 2.
Enfin, dans le 2, dans le 5, quoi. Ou dans le...
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est le 5.
Et c'est considéré comme le meilleur Star Wars de tout confondu. Hein. Il a eu déjà 9 et plus tous les
trucs. Ah, on est rendu à 9 quand même.
Ah, oui.
9 officiels plus tous les films qu'il y a autour. Quoi.
Ok.
Alors après, éternel débat, est-ce que Retour vers le futur 2 est meilleur que Retour vers le futur 1? Moi, je serais plutôt d'accord. C'est la suite directe du premier film.
Mm-hmm.
On découvre là le futur de Will Valley. On découvre des overboards, des voitures volantes, des hologrammes. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'à un moment donné, il y a Michael J. Fox là, qui prend, on est en 2015, l'année c'est 2015, et puis il commande un Pepsi et on lui donne une bouteille de Pepsi, qui est un Pepsi Perfect, qui est une bouteille un peu spéciale. Et il faut savoir que c'est en 2015, Pepsi a commercialisé cette bouteille, la même que dans le film.
D'accord.
Ah, c'est ça, j'en avais pas entendu parler.
Nike avait fait la même chose aussi avec les lacets automatiques, il y avait eu un
et
truc
puis,
comme ça aussi.
Voilà, les chaussures auto-lassantes.
Ah bah voilà.
Effectivement, dans le film, elles existent vraiment. Elles ont été commercialisées il y a pas longtemps, en 2015 aussi. Voilà, elles se ferment toutes seules. Pas besoin de faire de son lacet, c'est automatique.
Okay. Ils ont réinventé les tongs.
Ça s'appelle des scraps.
C'est ça.
Un film marquant. Alors, ça a vraiment marqué l'histoire du cinéma parce que c'était vraiment par la qualité de ses effets spéciaux. Il y a des films comme ça qui, dans l'histoire du cinéma, marquent de leur empreinte. Je pense notamment à Matrix qui a vraiment marqué un tournant dans l'histoire du cinéma au niveau des effets spéciaux.
Oui, mais le 2 était moins bien
Avatar
que le 1.
Avatar aussi, oui. Mais là, je parle de T2, Terminator 2.
Ah, T2.
qui est un film XXL qui a marqué l'histoire du cinéma. Donc, par la qualité des effets spéciaux, aussi par ses répliques, hein. Hasta la vista, baby, ça tire de là, ça vient de là.
Non, je n'aurais pas su.
Vista, baby.
On avait un Schwarzenegger. Alors, l'intérêt du film, c'est que, autant dans le 1, Schwarzenegger, donc c'était le méchant, le robot méchant, et dans le 2, hop, revient en situation, il devient le gentil. Il va aider Sarah Connor face à le T-1000 ou T-2000, je crois.
Qui était liquide,
voilà,
c'est
quelqu'un
ça
qui est liquide et tout, et qui se. Qui est liquide.
Ça, c'était fort.
C'est qui se déforme.
Visuellement, c'était fort.
Visuellement, c'était assez impressionnant. On n'a jamais vu un film comme ça. Autre suite sympathique, il y a aussi Alien 2, le retour. Alors, moi, ça m'a traumatisé dans mon enfance.
plus que le 1.
Ah oui, oui. Alors là, autant le 1, c'était tout dans l'intimité. On voyait quasiment jamais le monstre, à part quand il sortait du ventre de d'une personne. Là, on a donné carte blanche à James Cameron, toujours James Cameron. Voilà. Et il s'est lâché. En fait, on voit la reine des aliens, qui est une créature gigantesque. Le bestiaire est formidable. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a été nommée d'ailleurs dans la catégorie meilleure actrice. C'était la première femme à être nommée pour un film d'action. C'est Sigourney Weaver.
Un rôle d'alien.
Dans le film, elle avait refusé de porter des armes, mais James Cameron l'a obligée à porter des armes et à désingue du monstre à tout va. À la fin, c'est même carrément. Enfin, désingue à coups de lance-flammes et tout. Ouais. Mais ça fait très très peur. Hein. C'est assez impressionnant. Je sais que moi, quand j'étais gamin, ça m'avait impressionné. On considère aussi que Dark Knight, la suite de Batman, c'était aussi un chef-d'œuvre. Bien sûr, il y a Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est une trilogie, mais,
c'est pas
mais
une
le
suite.
1 est beaucoup moins bien que que le 2 et le 3.
Ils étaient prévus d'avance, disons.
On est monté en puissance jusqu'au 3. Et puis, moi je trouve aussi que dans les Indiana Jones,
c'est
le 3, surtout le 3,
le 3 est la croisade,
et quand même...
ça rechute après quand même.
Ouais, alors le 4 est une nullité sans nom, mais le 3 est très bien. Le 2 était moins bien, alors il faut savoir que Spielberg, il est très déçu de Indiana Jones et le Temple Maudit. Il était très déçu d'avoir fait ça parce que c'est un film qui est un peu noir pour lui. On se rappelle tous qu'à un moment donné, il est un espèce de chaman qui enlève le cœur à main nue d'un homme, quoi. C'est pareil, traumatisant pour les gamins. Il avait voulu s'excuser en tournant ce feel good movie qui est La Dernière Croisade, un film de 89 avec feu Sean Connery qui est juste super, quoi. Enfin, qui est plein d'action
drôle,
et tout. C'est un chef-d'œuvre du film d'action, quoi.
Il va y en avoir un nouveau, hein, encore.
Ils ont fait un 4 qui était nul. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, j'ai oublié. Ça dit extraterrestre. Ils vont en tourner.
Le crâne de cristal.
Le royaume du crâne de cristal.
C'est pas avec le fils de.
Ouais. Avec le fils de
Indiana Jones.
Et puis là, le 5, on l'attend, mais bon, j'ai très peur.
Une question. Est-ce que vous avez entendu parler de la suite d'Avatar? Parce que ça devrait arriver bientôt, non?
Oui, j'ai vu.
La bande-annonce est très belle.
Ouais. Cette année, on a deux suites. Donc, on a Top Gun 2 qui sort le 25
mai.
Et puis Avatar.
Qui est sorti déjà le 25
mai. La bande-annonce est sortie. C'est vrai que ça a l'air.
Avatar, ça arrive cette année, fin 2022.
Oui, c'est pour décembre 2022.
Ah, d'accord.
La bande-annonce, elle est déjà parue. Tu la retrouves sur YouTube.
D'accord.
On l'a vu avant Doctor Strange.
Oui.
Et ça a l'air juste.
Et c'est toujours James Cameron aussi.
J'étais très sceptique et franchement, je pense que ça va valoir le coup.
C'est beau, mais vu la bande-annonce, on aurait dit un documentaire sur la planète, puisqu'on n'a pas d'informations sur l'histoire.
Non, c'est vrai qu'on se.
Donc,
mais...
est-ce que l'histoire va être bien? Parce que les belles images, on en a vraiment plein beaucoup. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait une belle histoire.
On va visiter toujours Pandora, mais sous l'eau. Ça va être le monde aquatique.
Il y a
un monde aquatique.
Et le méchant revient.
Ah, on ne dit pas.
Bah si, on le voit parce qu'il a même tatouage, donc on le voit dans
le
bonheur.
Je suis ton père.
C'est ça. Dans tous les films, il faut une ordure.
Oui, c'est ça. Très bien. Vous avez d'autres deux qui vous ont plu?
Il y a La Reine des Neiges.
La Reine des Neiges 2 était bien.
Oh, c'est marrant, j'allais me dire pareil. J'ai pas trop aimé le premier, mais je trouvais que le deuxième était plus sympa.
J'ai trouvé que le 2 était assez...
un peu plus noir. Hein.
Assez poétique.
Ma Mamie à 2 était bien aussi.
Oui. Et puis la suite d'Amélie Poulain qui va sortir.
Ah, je savais pas ça.
Amélie Poul 2.
Fallait bien la faire.
Je suis en train de dire qu'ils vont détruire un mythe. Ils vont
se faire avoir.
Elle savait pas l'histoire.
Non,
les tuches 2, c'est pas mal.
Les Tuches 2.
Je rigole, ça.
Ouais, je suis pas sûr, mais bon.
Moi, je vois rarement les deux mots, en fait.
Ouais, tu vois, ouais. Bon. Merci en tout cas, Olivier. On va se faire un petit Graal avant de découvrir la chronique de Florian. Alors, c'est un Graal très spécial ce soir, puisque Titouan, qui chronique quelques fois dans l'émission, mais nous en a fait plusieurs de Graal. Il répond donc à sa façon aux questions des auditeurs. Par exemple, Alexandre nous demande combien il faut de friandises en chocolat, mon chéri, pour être bourré. Voici la réponse du Graal.
Question d'Alexandre, combien doit-on manger de « mon chéri » pour être bourré ?
Je ne ferai qu'une bouchée de ta question. C'est mathématique. Selon Ferrero, dans 100 g de « mon chéri », il y a 8 ml d'alcool à 13%. En prenant un « mon chéri » de 12,5 g, il y a 1 ml d'alcool par friandise, en gros 0,8 g. Je vous épargne les calculs, mais apparemment, il faudrait dans les 47 « mon chéri » d'affilée pour arriver à 0,5 g par litre de sang, et donc être positif au test. Bon après, le fait que ce soit dégueulé, mon chéri, on en parle ?
Ça c'est fait, c'est vrai que c'est pas très bon, mon chéri. Hein. Mais 47, voilà. Pour être
J'allais 47
à 0,5.
Moi j'essayerais.
Pour être à 0,5 grammes.
Déjà 1, c'est horrible. 47.
Ouais, 47.
Moi j'adore.
Bref, bon, alors en tout cas, si vous voulez retrouver les autres Graals, et bien sûr c'est Spotify, Question Graal, ou sur les podcasts plus du site radio-g.fr. Allez, une fois qu'elle est vidée, il faut l'embrasser sur le cul pour être marié dans l'année. Alors, je parle pas du chroniqueur, évidemment, mais de
Fanny?
La bouteille. Ouais, c'est ça.
Ah,
quoique, quoique.
Quoique, voilà, on peut tenter, on sait jamais, on peut tenter. Voici la chronique de Florian.
Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums, une bonne bouteille de vin.
Merveilleux jingle.
Oui, Florian, vas-y, c'était québécois un peu.
Ah oui, c'est vrai, il y a un petit accent. Alors, à votre avis, le terme bouteille vient d'où ?
Alors, bouteille. De boue et de taille.
Voilà.
Merci. Eh bien, pas du tout. Ça ne vient pas de boue et de taille. Et ça ne vient pas non plus de monsieur bouteille. Ça vient du latin bouticula, qui veut dire petit amphore.
C'est logique.
C'est mignon.
C'est logique.
C'est effectivement un peu logique. Bon. Alors, déjà, dans l'Antiquité, on a deux récipients principaux. On a l'amphore pour transporter les liquides alimentaires, et puis on a la cruche pour utiliser ces liquides. Voilà, donc il y a un récipient pour transporter et un récipient pour utiliser.
La cruche se ferme pas, en fait, c'est ça qu'on met sur la table pour mettre l'eau, etc.
Oui, c'est ça. Alors que l'amphore, elle est
fermée.
Elle peut se fermer.
D'accord.
D'ailleurs, on en trouve souvent beaucoup dans l'eau.
Ça, des cruches, il y en a.
Au fond d'eau.
J'ai pas osé dire.
Effectivement,
les cruches aussi.
De tout temps, on trouve aussi des cruches, bien sûr. Donc les amphores sont fabriquées en terre cuite, hein, en grès, normal, comme pratiquement tout à l'époque. Et déjà, dans la Rome antique, on trouve des petites fioles en verre. Alors, c'est des petits vases en verre. Ça s'appelle des navires.
Ah.
Voilà, c'est le nom. En fait, c'est la définition du navire à la base, c'est vase en verre. Petit vase en verre. Et donc, ce sont des vases qui ont une forme longue et avec une base un peu plus large pour permettre que ça tienne, en fait, debout.
Ah, ok.
Et donc, déjà là, on se dit, ça ressemble un petit peu à des bouteilles. Bon, effectivement, ça serait l'ancêtre de la bouteille, de très très loin, puisqu'au fur et à mesure des années, ce petit vase, en fait, tend à devenir un peu plus cylindrique, en fait, puisque c'est beaucoup plus pratique pour le transport. Au 4e siècle, et c'est quand même assez tôt, le fond de la bouteille, alors vous avez une bouteille un peu, alors pas encore la bouteille qu'on connaît aujourd'hui,
ouais.
Mais vous avez déjà une forme de bouteille en fait en verre. Le fond plat, avant le fond était plat, est remplacé par un fond piqué. Est-ce que vous vous êtes aperçu
piqué?
Bah, vous avez des petits points en dessous.
Ah oui, c'est vrai.
Sous les bouteilles.
Oui, c'est vrai.
Il y a toujours des petits points.
Mmh. D'accord.
Voilà.
Pour éviter qu'elles glissent, c'est ça? Pour éviter.
Souvent. Et bien, effectivement, c'est pour assurer une meilleure stabilité.
Ah ouais.
Et oui.
D'accord.
Ça doit agripper et donc ça.
Mais il n'y a pas encore le creux.
Ça, je sais pas.
Ouais.
Je sais pas. Mais en tout cas, elle tient toujours. Mais bah, après, le creux, je crois, c'est le procédé de fabrication qui fait que. Parce qu'on tient avec le truc comme ça.
Non, le manche, et puis ça fait un creux, d'accord.
Pour souffler le verre pour faire la bouteille. Mais bon, à l'époque, hein, et pendant tout le Moyen-Âge, la bouteille en verre reste quand même un bien assez rare, même très rare, mmh. et coûteux, puisqu'il y a peu de verreries, et les bouteilles en verre, et le verre principalement, est fabriqué à. Murano. Voilà, la verrerie de Murano. Donc pendant des siècles.
Ça devait coûter une blinde. Hein.
Pendant des siècles, c'est Murano qui fait toutes les bouteilles de verre au monde. Mais bon, le monde, à cette époque-là, on n'en connaissait pas beaucoup. Et donc voilà, au Moyen-Âge et pendant très longtemps, en fait, les liquides sont transportés dans des tonneaux, puisqu'on n'utilise plus d'amphores et on fait des tonneaux en bois. C'est en 1632 que la bouteille de vin moderne est inventée par le diplomate anglais Kenelm Digby. Voilà. Et donc, il fait une bouteille en verre verte.
D'accord.
Aujourd'hui les bouteilles de vin, beaucoup de bouteilles de vin sont vertes.
Et pourquoi c'est vert comme
ça ? Et pourquoi la couleur verte ? Pour protéger en fait le liquide de la lumière. En fait, c'est une couleur brune en fait, donc vert, que ce soit marron ou autre. Il faut que ce soit une couleur foncée pour que la lumière rentre pas trop dans la bouteille.
D'accord, parce que la lumière, ça abîme le vin du coup.
Bah, ça dénature effectivement, oui, ça dénature l'oxydant. Ça dénature l'aliment qui est à l'intérieur. Alors, à votre avis, en France, où se situe la première fabrique de bouteilles en verre ?
Alors, en verre.
Alors, on parle de vin.
Oui, donc à Bordeaux. Du
donc,
côté
c'est
Bordeaux.
À Bordeaux. Ouais, voilà, effectivement. C'est à Bordeaux. Donc, la bouteille en verre, voilà. Puis après, on aura les bouteilles en plastique qui apparaîtront dans les années 60 et les bouteilles en aluminium aussi, d'ailleurs, dans les années 2000.
Après, les gourdes, les cruches.
voilà. Et puis les canettes aussi qu'on connaît encore aujourd'hui, mais je vous en parlerai un tout petit peu après. Est-ce que vous savez les tailles de bouteilles ? Parce que la bouteille classique, elle fait 75 centilitres, je vous en prends pas grand-chose là-dessus.
Donc elle s'appelle bouteille.
Et donc celle-ci, elle s'appelait bouteille, en fait, elle a pas de nom particulier.
Bouteille d'un litre alors qu'elle fait pas un litre, ça.
Ça n'existe pas les bouteilles d'un litre, voilà. D'ailleurs.
Okay.
En tout cas, pas en verre.
Pas pour le vin, oui.
Champagne, c'est comme le champagne en fait.
Ouais, alors en fait, ça vient effectivement du champagne. C'était les noms de bouteilles de champagne qui étaient nommés. Et maintenant, ça vaut un peu plus pour les autres vins et pour les autres liquides.
Je sais pas, moi j'ai Nabucodonosor, je sais pas quoi. Magnum, oui, Magnum.
Alors il y a le Magnum, effectivement. Et ça correspond à quoi le Magnum ?
Alors 5 litres ?
Non, 2, 3.
Non, c'est tout petit, ça correspond à 2 bouteilles.
Ah, d'accord.
Oui, c'est pas si énorme que ça, donc ça fait 1,5 litre.
D'accord.
Ah oui.
Je vais vous les donner. Donc vous avez.
Il y a le Nabucodonosor. Je crois que le plus. Il n'y a pas le Jéroboam, je pense.
Alors, lequel est plus grand que l'autre ? Ah, on va voir. Ouais. On va comparer les tailles.
Ok.
Donc vous avez le 8e. Vous avez le 8e qui correspond à 9,4 centilitres. Donc ça, on n'utilise plus du tout. Ça fait vraiment une petite bouteille de rien du tout.
Ouais, c'est
d'ailleurs,
ça.
Les mignonnettes. D'ailleurs, ça existe aussi.
Oui, petite mignonnette. Et ça s'appelait comment ça ?
Mais je ne sais pas la mignonnette. Je ne sais pas combien ça fait en général. C'est assez petit. Donc vous avez le 8e, vous avez le quart de vin classique. Donc c'est à peu près 20 centilitres, un tout petit peu moins. Vous avez la demi-bouteille. Bon. Ça, c'est aussi connu, 37,5. Vous avez le médium qui faisait 60 centilitres, mais c'est pareil, on n'utilise plus non plus. Ouais, c'est un tout petit peu moins que la bouteille, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Le Magnum, ça correspond à 2 bouteilles, donc 1,5 litre. Le Jéroboam, qui correspond à 4 bouteilles, ce qui fait 3 litres. Je vous épargne les calculs mentaux.
Ouais.
Vous avez le Rehoboam, qui correspond à 6 bouteilles, 4,5 litres. Mathusalem.
Ça, il est vieux, celui-là.
8 bouteilles avec 6 litres. Le Salmanazar, 12 bouteilles. Le Balthazar, 16 bouteilles. D'accord. Le Nabucodonosor, 20 bouteilles. Et le Melchior, 24 bouteilles.
Et ça doit être énorme. C'est, là, c'est l'enfort.
24
là,
bouteilles, c'est quand même 18 litres. Hein, vous avez 18
c'est
litres,
la grosse enfort.
Il y a des bouteilles qui font
effectivement.
Ça, c'est incroyable.
Et il y a encore plus que ça. Il y a quelques maisons de vin en France, et notamment de Champagne, qui fabriquent ces bouteilles-là. Vous avez le Souverain, qui correspond à 35 bouteilles. Le Prima qui correspond à 36 bouteilles et le plus gros volume de tout, c'est le Melchizedek qui correspond à 40 bouteilles, c'est-à-dire 30 litres.
Mais alors comment tu le sors ? Comment tu le sers ?
Je ne sais pas. Mais
si c'est vraiment en verre pour le servir, c'est faut cas, le basculer, faut.
Ça,
c'est...
Bah ça doit. Bah, oui, effectivement, ça doit être
diable,
sur des roulettes.
C'est ça. Ok, donc méga bouteille.
Voilà. Donc ça c'est effectivement les tailles des bouteilles. Donc ça c'est toujours en verre, hein. Et donc maintenant on fait pas par contre les bouteilles en plastique, on fait pas un Nabucodonosor en bouteille en plastique.
On fait Volvic, c'est ça.
On fait les cubis, certes.
Les cubis, oui. Il paraît que ça se conserve bien, hein, mais sinon, dans le plastique. C'est vrai que c'est pas très glamour, mais ça se conserve bien.
Oui, ça se conserve
parce
bien.
Parce que c'est à l'abri de la lumière.
Alors après, sur les bouteilles qui se conservent le mieux quand même, c'est quand même les Tetra Pak.
Ah oui.
Alors Tetra Pak est une marque.
Donc c'est de l'aluminium alors.
Mais effectivement, c'est les briques. Aujourd'hui, on connaît les briques. Vous avez du lait dedans. Vous avez même des bouteilles. J'ai croisé ça. Des bouteilles en Tetra Pak.
Ouais.
Enfin, des bouteilles d'eau en Tetra Pak. Aussi, oui. Récemment, j'en ai vu. Ça fait bizarre de boire. On dirait. C'est très étrange. Et donc en fait, c'est une bouteille. Enfin, c'est une brique où tu as du carton, de l'aluminium et du polyéthylène. Quand même, il y a un peu de plastique. Ah, quand même. On va pas.
L'aluminium n'est pas en contact avec le.
C'est des couches.
C'est le plastique qui est en contact avec le liquide, d'accord.
C'est le plastique. Donc c'est plusieurs couches en fait, et là vous avez une protection optimale et un gain de place aussi, puisque les bouteilles en briques, vous les mettez tous collés, alors que les bouteilles en verre, c'est rond, et vous perdez forcément de la place dans le rangement et dans le transport. Et donc ça a été fait aussi pour ça. aussi pour le.
Par contre, le recyclage est plus compliqué, j'imagine, vu que
alors,
c'est.
Alors, Tetra Pak, le carton, ça se recycle assez bien.
Ouais, mais l'aluminium qui est
dedans, le polyéthylène, plastique, on arrive quand même à recycler un petit peu. Par contre, l'aluminium a un taux de recyclage qui n'est pas bon du tout. On est à 37% à peu près.
Ah, oui.
Donc, non. L'alu, on n'arrive pas encore.
Contrairement au verre où c'est 100%.
Contrairement au verre où vous recyclez plusieurs fois, effectivement, le verre. Et d'ailleurs, en parlant de recyclage, aujourd'hui, la plupart des bouteilles en verre en France sont entre. Quand vous mettez bien la bouteille au tri, ouais, rentre dans le circuit de recyclage. Mais avant les années 90, par exemple, on n'était pas du tout là-dessus. On était sur la consigne. La consigne des bouteilles
oui,
en verre.
Oui, oui.
T'as vu la transition ? Merveilleux.
Il n'y a plus trop de bouteilles en verre.
Si. Bah, le vin aussi, si, le vin.
Perrier, peut-être. Oui, encore.
Non, mais on parle du vin pour la consigne.
Ah, oui.
Hein,
alors, en supermarché, il y a. Oui, sur la consigne, non, en supermarché, il y a beaucoup de bouteilles en verre.
Sur
mais,
la piquette,
mais, quoi. Mais par exemple, dans les restaurants, dans les cafés, dans les brasseries, vous avez encore les bouteilles en verre. Et vous avez encore des consignes qui existent. Donc les commerçants, enfin le café en fait, ils
payent. Ah oui, les bouteilles, c'est vrai, les bouteilles de coca de 25 centilitres en verre, elles
bien,
sont consignées.
Et c'est bien pour ça que vous avez les petits camions de boissons, enfin qui livrent les cafés,
qui
en fait ils récupèrent les bouteilles.
Je savais pas.
C'est si.
Et donc la consigne en France représente aujourd'hui moins d'un tiers des bouteilles en verre, et le reste c'est du recyclage. Voilà. Alors que dans des pays nordiques ou en Allemagne, on est aux trois quarts, c'est encore la consigne qui est en verre.
Donc la consigne, ça veut dire que c'est lavé. Et réutiliser
c'est
sans être fondu. Quoi.
C'est lavé et réutilisé, effectivement. On peut les réutiliser environ 50 fois derrière. Donc
d'accord.
50 lavages. Et il faut juste, en général, vous avez un petit. Alors pour nous clients, les cafés, ça se voit pas. Mais en tout cas, à l'époque, on donnait une somme plus, en fait. On payait la consigne. Si tu ramenais pas la bouteille, la consigne, tu la perdais. Si tu la ramenais, on te redonnait le montant que tu avais donné. Voilà.
Très bien.
Et aujourd'hui. En termes écologiques, on se dit pourquoi pas revenir à la consigne, tout ça. Mmh. Finalement, ça serait possible ou pas. Mais enfin, le recyclage en fait a pris un tel poids aujourd'hui dans l'économie aussi. C'est vraiment tout un secteur économique qu'on aurait du mal à revenir à la consigne en réduisant la part du recyclage du verre en fait. Aujourd'hui.
C'est-à-dire que les gens ramenaient leurs bouteilles au magasin, ça c'est lourd. C'est
alors
tout
en plus
ça,
c'est ça. En plus il y a aussi le côté organisationnel et comment on organise la collecte.
C'était une époque aussi où tu prenais ta voiture pour aller au supermarché, tu mettais ça dans la voiture.
Parce que là maintenant tu te fais livrer, il faudrait redonner au livreur et qu'il reparte avec tout ça. T'imagines le camion.
C'est tout un circuit à relancer. Ouais.
Mais bon. Très bien. Écoute, on a appris plein de choses. Merci, Florian. Alors, tu parlais de bouteilles. Alors, l'alcool fait des ravages, on le sait.
Oui,
des ravages,
consommer
qu'on retrouve, ravages qu'on retrouve dans la chanson française. On appelle ça même des chansons à boire. Et oui, qu'on peut écouter, mais uniquement avec 2 grammes. Alors, tout comme l'alcool, ces chansons se consomment avec modération. Je vous ai sorti quelques-unes de ces chansons du frigo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, comme on remonte aux origines des émissions, des choses. Une qui vient du fond des temps, celle-ci.
Il est des nôtres, il a mis son verre comme les autres.
Vous connaissez quand même celle-ci.
Vous connaissez sur Radio.
Ouais.
Avant, il faut faire Frontibus, Nazibus.
Ah oui, tu connais, il y avait des choses à faire comme ça. Ok.
Tu lèves ton verre et hop, tu bois.
Bon, alors j'avais. Comme il connaît, j'avais celle-ci aussi.
Ah ouais.
Et de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde.
Il y avait un truc à faire aussi là,
non fou, je sais pas.
Non, tu sais pas.
Goûtons voir.
Oui, oui, oui.
Goûtons voir. Goûtons voir si le vin est bon.
Olivier connaît aussi, hein. Il n'y a que Mathias qui ne connaît pas, il ne boit pas, Mathias.
Non,
hein.
Non,
non. Non, non, non. Alors celui-là, tu dois connaître, Mathias ?
Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table.
Non, mais j'étais pas né, en fait.
Alors, celui-là, tu dois connaître. Alors, c'était qui
Licence 4.
Licence 4, oui.
Elle
s'est restée 13 semaines en tête du top 50 des meilleures ventes de disques. Ça a été détrôné par Madonna après. C'est sorti en 1986. Alors, il y a un clip.
Quelle année ?
Il y a un clip qui a été fait. Et dans le clip, on peut voir Paul Prébois, Dick Rivers, Patrice Sébastien, Carlos, Moustache, Sophie Darel, Eric Chardin, Thierry Ray, Rosé Isabelle et ou encore Philippe Laville.
Ah oui, voilà. Ça présageait déjà.
Ouais, donc si vous revoyez le clip, eh bien, il y a tous ces gens-là qui sont.
Là, vous réalisez que vous êtes peut-être né parce que.
Oui,
ils sont parents ont fait l'amour sur les
sur ce que j'étais en train de me dire.
Ouais.
C'est ce que. Et j'ai un peu peur, du coup. Enfin, je me sens sale.
Et là, tu comprends plein de trucs.
Bon, allez, on a celle-ci aussi.
Des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Des femmes.
c'était qui?
Soldat Louis, un groupe originaire de l'Orient. Alors tout ceci est à écouter.
Il aurait pu gagner l'Eurovision.
Oui, en plus, ouais. Tout ceci est à écouter avec modération, parce que franchement, les oreilles vont saigner quand même. Hein. Je vous ai épargné les Patrick Sébastien. Oui.
T'as pas mis le petit vin blanc?
Non, il y en a plein d'autres, effectivement. Effectivement.
T'as pas mis Sébastien, je suis déçu.
Ben ouais. Enfin, en tout cas, vaut mieux être ça que d'être sourd comme un pot. D'ailleurs, c'est justement le Graal qui revient sur cette expression.
Question de Paul, d'où vient l'expression sourd comme un pot?
Hein? Tu dis quoi? C'est pas de pot, j'ai pas entendu. Alors, il y a de grandes théories. La première nous dit que « sourd comme un pot » est en fait un raccourci de « sourd comme un pot à anse », les anses représentant les oreilles du pot qui ne lui servent pas à entendre. Autre explication, ce sera un dérivé de l'expression anglaise « deaf as a post », donc « sourd comme un poteau qui, évidemment, comme tout objet inanimé, n'entend pas. Ça marche aussi pour les impôts qui sont sourds quand on leur demande une ristourne.
Tu vas avoir des problèmes, Titouan.
Merci. Pas gentil.
Ouais, on te retrouvera la saison prochaine dans CMA. Allez, pour l'heure, on arrive à la fin de l'émission et il est temps de découvrir qui a gagné le CMA Plus de la précédente émission. Alors, il y a 15 jours, on a eu comme sujet les affiches de Cannes. C'était toi, Olivier. Hein,
oui.
Les, jar...
non, attends, attends, attends.
Les jardins futuristes, c'était dit-toi. La boussole, on a eu les cartes, c'était toi et Florian. Ah bon. Et puis on a eu le Soso Show également. Alors ça s'est pas joué à grand chose, mais la chronique qui a parlé le plus aux auditeurs est celle, et ouais, effectivement, ouais, sur les jardins futuristes. Ah. Et effectivement, on m'a dit, c'est vrai que comme il a parlé en fait des immeubles d'Angers, de tous ces immeubles qui vont arriver, et ça a parlé aux gens, effectivement. En tout cas, bravo, voilà, bah, tu as ton CMA+.
D'ailleurs, je peux vous parler de tous les endroits où on peut déposer aujourd'hui ces bouteilles de verre à Angers, puisque pour gagner, il faut parler d'Angers.
C'est vrai, il faut parler d'Angers. C'est ça, les... bon, c'est vrai que c'est des auditeurs angevins qui jouent, hein, mais bon, voilà.
C'est qui?
Allez, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs et queuses de ce soir. Donc, merci Sonia, merci Olivier.
Merci.
Merci Mathias.
Merci, bonne soirée.
Merci Florian.
Merci, bisous.
Alors, on embrasse Caro qui, elle, va tenter un nouveau record puisqu'elle vient d'avoir pour la 40e fois consécutive le Covid. Bravo à elle.
Hein?
Ah oui, je pense que là.
Oui, elle a fait très fort.
Elle a fait très fort. Voilà, elle a une connexion de Covid sympa. Allez, on se retrouve, même heure, même endroit, dans 15 jours pour un nouveau numéro de CMA. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA. Yodelay, yodelay, hey.